C'est le psychanalyste et directeur de recherche au CNRS Michel Plon qui est notre invité aujourd'hui et en compagnie de qui nous allons évoquer malaise dans la culture. Michel Plon, à qui l'on doit, entre autres, un article sur le malaise dans la culture dans un recueil paru aux presses universitaires de France intitulé « Autour du malaise dans la culture de Freud », recueil constitué de papiers de Michel Plon, mais également Jacques Le Rider, Gérard Rollet et Henri Reflot. On doit aussi et surtout à Michel Plon, le dictionnaire de la psychanalyse, écrit à quatre mains avec Elisabeth Roudinesco et paru chez Fayard et dont la troisième édition aujourd'hui date de 2006. Bravo et bonjour monsieur.
Bonjour.
Papa travaille à quelque chose, révèle Anna Freud à Lou Andrea Salomé. On est début juillet 1929. Il s'agit de culture, de sentiments de culpabilité, de bonheur et autres sujets élevés, précise son papa, justement. Peter Gay, dans la biographie qu'il consacre à Freud et qui nous sert de viatique pour cette semaine, écrit ceci. « Malaise dans la culture est le livre le plus sombre de Freud et aussi à mains égards celui où il laisse le plus clairement transparaître son propre mal-être. » Aucune des idées principales, précise Peter Gay, développées dans Malaise dans la culture, n'est neuve. Freud les a déjà ébauchées dans ses lettres à Fliss au cours des années 1890. Mais il ne les avait jamais analysées avec une telle détermination, ni fouillées si avant, poursuivant impitoyablement sa pensée dans tous ses prolongements. Et à Huntington, Freud écrit en juillet 1929 « S'il faut absolument un titre, ce sera « Malheur dans la culture ». Finalement, ce sera « Malaise dans la culture ». Et près d'une semaine, précisons pour finir ceci, que près d'une semaine avant que Freud n'envoie le manuscrit du « Malaise dans la culture » à l'imprimeur, eh bien c'est le 29 octobre, le mardi noir pour les Américains, la bourse de New York s'effondre, un événement dramatique qui se répercuta de pays en pays à une extrême vitesse dans le monde entier. Ce qu'on devait bientôt appeler la Grande Dépression avait commencé.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams.
Michel Plon, on va parler donc de Malaise dans la culture de Freud, un livre sombre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a décidé, en préambule à cette conversation, de faire entendre un peu la voix sublime de Marianne Faithfull, le Boulevard of Broken Dreams. Mm-hmm. C'est un rêve brisé, c'est aussi le livre d'un rêve brisé, peut-être d'un optimisme anthropologique brisé chez Freud, non ?
Le dernier oui. Freud. Ben, on parle beaucoup, notamment à propos de ce livre, mais d'autres essais de Freud, on parle du pessimisme de Freud. Moi, je n'ai jamais été convaincu du fait que Freud soit fondamentalement pessimiste. J'ai toujours essayé de dire, d'écrire le cas échéant, qu'il était sceptique, ce qui est très différent, c'est-à-dire mesuré, pesant le pour et le contre face à des questions, mais se gardant au fond de faire tout pronostic définitif. C'est d'ailleurs le sens de la dernière phrase du mais malaise dans la culture.
C'est ce que j'allais vous dire. Allez-y.
C'est la phrase qu'il ajoute lors de la deuxième édition, parce qu'il terminait son livre en disant qu'il allait bien falloir qu'il y ait une sorte de compromis entre les deux forces pulsionnelles, Eros et Thanatos, la pulsion de vie, la pulsion de mort, qu'on pouvait espérer, penser que la pulsion de vie allait prendre le dessus. Et puis, il rajoute cette phrase en 1931. Alors, 1931, c'est peut-être pas une date qui parle à tout le monde comme 1929, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais enfin, 1931, on s'approche de 33, donc on s'approche des années noires. Et il dit qu'on peut craindre que cette issue positive du triomphe ou de la domination de la pulsion de vie, eh bien, ne soit pas assurée.
Alors, juste pour entendre les deux phrases en question, oui. La phrase pessimiste et puis celle qu'il rajoute après.
Oui.
La pessimiste est la suivante. On l'a citée d'ailleurs la semaine dernière dans une semaine sur l'écologie, justement. Oui. C'est Jean-Paul Déléage qui l'a citée en exergue de son histoire de l'écologie. « Les hommes, dit Freud, sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier, ils le savent. De là, une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. » Voilà pour le pessimiste.
Je ne qualifierais pas ça de pessimiste.
Ah, qu'est-ce qu'il vous faut ? En tout cas, il rajoute, après, et là peut-être je vous suivrai davantage, et maintenant, il faut s'attendre à ce que l'autre des deux puissances célestes, c'est-à-dire il y a Thanatos d'un côté et Eros de l'autre, l'Eros éternel, fasse un effort pour s'affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel, mais qui peut présumer du succès et de l'issue ? Ça, c'est la formule d'un sceptique, effectivement.
Voilà. C'est la formule qu'il rajoute. À la fin, parce que justement, il sait augmenter le danger. Parce que lorsqu'il parle, comme dans la phrase que vous venez de citer, du développement technique, du fait que les hommes ont la possibilité de se détruire totalement, bon, il fait un constat. Il est tout à fait dans l'incertitude. Il dit, évidemment, il y a un danger. Il y a un danger. Et en fait, cette phrase résume un peu mieux tout le livre. À savoir que le développement de ce qu'il appelle la culture, bon, il ne faut pas prendre la culture au sens restreint du terme.
Kultur, ici. On traduit le livre d'ailleurs par malaise dans la civilisation comme malaise dans la culture.
Mais Jacques Le Rider a bien insisté sur le fait qu'en définitive, la bonne traduction, c'était malaise dans la culture.
Pourquoi ?
Parce que le terme de civilisation, d'abord, implique une idée de progrès. Or, Freud ne croit pas au progrès. Et Lacan, plus tard, ne croira pas non plus.
Le non-pessimiste Freud ne croit pas en l'idée de progrès.
Non, il pense qu'il y a continuellement une contradiction. C'est-à-dire qu'on va dans un sens qui constitue un avantage, qui constitue un bienfait, mais ce bienfait, en même temps, entraîne des conséquences qui sont douloureuses, désagréables, et c'est tout l'axe central de malaise dans la culture, à savoir, d'un côté, la recherche du plaisir, la recherche du bien-être, mais en même temps la nécessité de réguler cette recherche et donc d'être frustré ou d'être privé. Alors, il y a constamment dans Freud cette oscillation qui me paraît tout à fait fondamentale. C'est pour ça que je suis un peu contre l'interprétation pessimiste, parce que Freud n'est pas un déterministe comme ça au regard de la société. Il dit, bon, on a ça, et puis en même temps, vous savez, on a autre chose, et c'est l'essence humaine. C'est une contradiction fondamentale qui fait la base même de l'être humain. Et ça, c'est une idée qui est en continuité totale dans toute l'œuvre de Freud, par quelques bouts qu'on la prenne.
Alors, on va rester sur cette question du pessimisme freudien ou du non-pessimisme freudien. Je voudrais qu'on entende justement sur cette question Michel Plomb, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, la parole de Paul Ricoeur sur la question du pessimisme de Freud. Écoutez.
Je crois que le pessimisme est la note dominante. Je m'explique concernant le pessimisme. Freud a, me semble-t-il, été toujours fasciné par un phénomène fondamental de la vie humaine, mais celui-là même que lui présentaient ses malades, c'est la répétition. Le fait que l'adolescence nous replace dans des situations du premier âge et que l'homme n'en a jamais fini avec son enfance. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des désirs, les plus vieux désirs, les désirs indestructibles, il pointe vers quelque chose qui est absolument indépassable dans l'existence humaine. Et plus on avance dans l'œuvre de Freud, plus on découvre que ce qu'il appelle l'inconscient est vraiment une terre inconnue. Ce n'est pas simplement une sorte de réceptacle de pensée qui manque simplement de la lumière de la conscience et qui doivent devenir conscientes après avoir été inconscientes, mais c'est vraiment autre chose. C'est l'autre région et qui parle autrement. Alors, l'homme est donc confronté par là à quelque chose qui restera finalement toujours sauvage, qui ne sera jamais parfaitement éduqué par la culture, et c'est pourquoi Freud, on peut dire qu'il professe un pessimisme culturel.
Un pessimisme culturel, l'homme constamment confronté à ce qui reste sauvage. On peut être d'accord, non, avec ce que dit Paul Ricoeur.
Je suis tout à fait d'accord avec cet extrait que vous venez de diffuser.
Sauf son préambule.
Oui.
Pessimisme comme
non,
note dominante.
C'est à la fois un préambule et une conclusion. Bon, lui interprète ça comme un pessimisme. Moi, j'interprète ça comme un scepticisme. Il parle très justement de la répétition, mais c'est peut-être là l'occasion d'introduire, de bien nuancer les choses. C'est à propos de la répétition, c'est-à-dire à propos des névroses traumatiques de guerre. Bon, Freud observe que les gens qui reviennent de la guerre, 14-18 en l'occurrence, puisque c'est en 1920 qu'ils travaillent là-dessus, rêvent sans arrêt de moments extrêmement douloureux, de moments extrêmement pénibles. donc de choses qui sont de l'ordre du déplaisir, mais il y a ce côté répétitif. Et il fait la jonction entre ce côté répétitif de ses rêves, bon, et le fameux jeu du forta, bon, qu'il a observé. C'est l'enfant qui est dans son berceau, qui lance la bobine, une bobine avec un fil, très loin, forte, et puis qui dit « Da, reviens ». Bon, et Freud y entend le fait que la mère s'en va et puis revient. Bon. Alors ça, c'est la répétition, c'est un principe fondamental. Bon. C'est de cette observation, de cette théorisation de la répétition, que Freud va dégager l'idée d'un au-delà du principe de plaisir. Hein, c'est le titre d'un essai de 1920.
Oui, dont on parlera vendredi. Oui.
Voilà, dont vous parlerez plus longuement. Bon. Et il va donc délimiter ce qu'il appelle lui-même une spéculation psychanalytique. Hein, parce qu'il avance très prudemment. Quand on relit au-delà du principe de plaisir, c'est extraordinaire. Il consacre au moins une bonne quinzaine de pages à chercher toutes les hypothèses possibles qui lui permettraient d'éviter la reconnaissance de cette pulsion de mort. Parce qu'il sait...
Mais c'est précisément, pardonnez-moi, mais on va, c'est vrai, parler de principe de plaisir, mais ça n'empêche pas d'en parler aujourd'hui. Freud fait une découverte avec cette pulsion de mort. L'introduction de la négativité dans la pensée de Freud transcende. Le Freud contradictoire et sceptique dont vous parlez, c'est aussi le Freud bon, de l'interprétation des rêves, des textes d'après, c'est-à-dire de l'émergence de la psychanalyse. Mais il y a cette dimension noire, sombre, obscure de la psychanalyse qui intervient après quand même cet épisode de la Première Guerre mondiale, non ?
Oui, alors...
Cette note dominante, comme dit Paul Ricoeur.
Oui, c'est une interprétation de Freud, qui est très, je dirais, un peu romantique, un peu poétique, éventuellement philosophique. Bon. Sur un plan strictement psychanalytique, je pense que Freud fait une découverte absolument fondamentale dont on peut identifier les traces, pratiquement depuis la correspondance avec Fliess. Il y a toujours un pôle chez Freud, il y a toujours un pôle négatif et un pôle positif. Bon. Donc, il identifie...
En amont du principe de plaisir.
Oui, en amont de sa découverte du principe de plaisir. Mais le principe de plaisir, c'est très tôt. On en trouve les traces...
Non, en amont du texte, je veux dire. En amont de la pulsion de mort,
oui.
Si vous voulez.
Ah ben oui, ça oui. Oui, la contradiction. La pulsion de mort, il la dessine dans un texte fondamental, peu connu, de 1915, qui s'appelle « Considération actuelle sur la guerre et la mort ». Hein? Bon. Et là, si on lit bien, on voit bien, 5-6 ans avant... les contours de cette pulsion de mort. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que la pulsion de mort n'est pas quelque chose de négatif, de strictement négatif. C'est incontournable. Ça fait partie de l'essence humaine. C'est-à-dire, il y a la dualité pulsionnelle qui est un remaniement par Freud en 1920, en même temps que la deuxième topique, un remaniement de sa théorie des pulsions. Bon, il va aboutir à une dualité pulsionnelle. Eros, principe de vie, principe de plaisir, etc. La vie. Thanatos, la mort. Mais la mort fait partie de la vie.
Donc on ne peut pas parler à ce moment-là d'un dualisme freudien. Il y aurait un bien et un mal, d'une certaine façon. On peut pas...
Pas en termes de bien et de mal. Pour moi, ce n'est pas en termes de bien et de mal. C'est en termes de la mort fait partie de la vie. Donc c'est un élément vital. D'ailleurs, Lacan disait, sous forme de boutade, la vie sans l'idée de la mort serait absolument insupportable.
Invivable.
Alors, invivable.
On pourrait
absolument.
Le dire comme
oui,
ça.
Oui, invivable, tout à fait. Donc la pulsion de mort, c'est pas quelque chose qui est à entendre. Il y a des dérivations de la pulsion de mort. Pulsion de destruction, la cruauté, bon, qui va développer dans plusieurs textes. Mais je crois que c'est une mauvaise interprétation, parce que ça conduirait à l'idée, bon, eh bien, qu'on pourrait en quelque sorte transcender la pulsion de mort, hein, et aboutir à une espèce d'Eldorado où il n'y aurait plus la pulsion de mort. Ça, précisément, on rejoint là un thème qui a l'air de vous intéresser, c'est le sentiment religieux, hein, c'est la religiosité. L'au-delà, le paradis, hein, où on sera enfin débarrassé de toutes les scories qui ponctuent notre existence, et bon, ça sera l'Éden. Alors ça, évidemment, Freud prend ça en considération au titre d'une fiction, au titre d'une représentation, une Vorstellung. Mais évidemment, il n'y croit pas.
Hein, on y vient avec vous, Michel Plou. Hein. C'est passionnant de vous entendre. On va arriver au sentiment religieux, justement. Juste avant cela, on va juste montrer aux auditeurs qu'on peut rire de tout dans les nouveaux chemins de la connaissance. Écoutez.
Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois, j'ai des drôles idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des. Teaser. paraît qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'ai, j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé, ça tourne pas rond.
Francis Blanche sur France Culture, dans les nouveaux chemins de la connaissance, et Michel Plomb avec nous pour parler du pessimisme de Freud et du malaise dans la culture.
Pour dire qu'on peut sourire dans les chemins de la connaissance.
Et rire de
comme
tout,
il était,
surtout.
Bien entendu, et comme il était question de la vie et de la mort, ça m'a fait immédiatement penser à cette petite anecdote que raconte Freud dans les considérations actuelles sur la guerre et la mort. Il, pour montrer, déjà en 1915, la coexistence des deux pôles. C'est un couple qui est à peu près à l'âge de la retraite. Bon, alors il y a lui et elle, on mettra les phrases chez lui ou chez elle. Enfin, il y en a un des deux qui dit à l'autre...
Quand tu seras mort, j'irai me retirer à la campagne,
voilà.
C'est ça? Ah oui,
voilà.
Allez-y.
Vous connaissez ça, hein?
Oui.
Hein, lorsque l'un de nous deux viendra à mourir, bon, j'irai m'installer à Paris.
Ah oui, c'est ça, à Paris.
Voilà,
oui.
C'est à Paris. Hein? Alors ça, c'est merveilleux.
Oui, parce qu'on ne sait pas qui le dit.
Bien entendu, on ne sait pas qui le dit, mais surtout ça traduit ce que dit très bien Freud, que la mort de l'autre... Bon, ben, oui, à la rigueur, mais la nôtre, non, c'est pas pensable. On pense pas à notre mort, on veut rien en savoir. Bon, et en même temps, ça montre bien, parce que c'est, Freud situe bien le cadre, c'est un couple qui n'est pas du tout en train de se disputer, qui s'aime beaucoup, hein, mais quand même, bon, il imagine la mort automatiquement de l'autre, l'un ou l'autre, bien entendu. Bon, alors, c'est aussi intéressant, cette petite phrase, qui a l'allure d'un vite, en quelque sorte.
Un mot d'esprit, oui.
Quand vous la faites entendre comme ça à des gens qui ne connaissent rien à la psychanalyse, qui ne sont pas spécialement en accord avec leur inconscient, vous dites cette phrase et ça va cliver. Vous en avez un certain nombre qui vont éclater de rire immédiatement parce qu'ils ont entendu. Et d'autres qui vont dire « je ne vois pas ce qu'il y a de drôle ». C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas. C'est comme un petit test. Vous voyez, pour voir où en est quelqu'un.
Qui est perméable, justement, à une parole psychanalytique ou à la densité d'une parole
Absolument. Apparemment ordinaire.
Allons vers le malaise dans la culture avec vous, Michel Plomb, et partons de son commencement. Freud, pessimiste ou non, en tout cas, est un archéologue du sentiment religieux, on peut le dire comme ça, en termes quasi foucaldiens.
Oui.
La question de savoir si Dieu existe ou non, d'ailleurs, l'intéresse moins que la question de savoir d'où vient le besoin qu'on a d'y croire.
Voilà.
Et il dit ceci, il dit en substance que le sentiment religieux a une origine strictement profane, uniquement ancrée dans la psychologie individuelle.
Absolument.
C'est-à-dire
Alors, il faut, si vous me permettez, on va resituer juste ça un petit peu chronologiquement. Avant le malaise dans la culture, Freud a écrit L'avenir d'une illusion, qui concerne la religion, je dirais à la fois... La religion en tant que religiosité, mais la religion aussi en tant qu'église, en tant qu'organisation dans la société. Bon. Et il est en correspondance, entre autres, à l'époque, avec Romain Rolland, qui lui écrit en 1923, la correspondance a commencé en 1923, et Romain Rolland, juste après Avenir d'une illusion, qu'il lui a envoyé, Avenir d'une illusion était surtout destiné à son ami le pasteur Pfister, qui était un psychothérapeute, analyste suisse, pédagogue aussi.
Oui, et qui commente notamment le tableau de Léonard de Vinci,
voilà.
Sur la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte-Anne, et qui repère la forme du vautour.
On en parle
cette semaine. Allez-y.
Donc Romain Rolland lui répond, le remercie de son livre, et lui dit « c'est très bien tout ce que vous dites sur la religion, je suis tout à fait d'accord, mais vous semblez oublier, ne pas étudier, ne pas réfléchir à ce sentiment que l'on peut avoir, justement, et qui est proche de la religion, qui rentre dans la religion, ce sentiment de plénitude que l'on peut éprouver à tel ou tel moment.
Ce qu'il appelle le sentiment océanique.
Et que je qualifierais d'océanique. Et Freud lui répond, c'est très important, cher ami, etc., etc., votre observation ne m'a pas laissé en repos. Bon. Parce que Freud était de ce genre-là, hein, c'est-à-dire si vous lui posiez une question un peu fondée, bon, ça le travaillait, et il se mettait au travail. Donc c'est de là qu'il écrit « Malaise dans la culture ».
C'est de cette idée d'essayer de thématiser ce que Romain Rolland appelle le sentiment océanique, qui est un résidu de infantile, en fait.
Alors, il va montrer tout de suite, dès le début de « Malaise dans la culture », il va dire « c'est pas du tout océanique ». En fait, il s'agit d'une réminiscence, d'une nostalgie, de la prime enfance. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les progrès, entre guillemets, de la psychanalyse, on pourrait même dire peut-être du fœtus. Toujours est-il que ce dont il est question, c'est de la fusion du tout-petit avec la mère et de la séparation inéluctable d'avec cette mère et de la nostalgie qui va en résulter. Bon, cette séparation, c'est la première séparation, c'est la première fois.
Mais il faut bien comprendre que chez Freud, c'est finalement la même chose, fusion et séparation en l'occurrence, puisque l'expérience de la fusion est une expérience de la séparation.
Absolument.
Puisque la fusion s'opère quand l'enfant tète le sein de sa maman, mais c'est par la répétition du contact qu'il mesure que le sein n'est pas toujours dans sa bouche. Et par conséquent, il fait l'expérience de la séparation.
Et qu'il commence à souffrir.
Voilà,
et qu'il commence à souffrir. C'est la première souffrance. Bon. Et c'est intéressant parce que la planche avait bien parlé de ça dans Vie et mort dans la psychanalyse. C'est d'actualité par rapport à ce que nous disons. L'enfant qui tète sa mère, il la tète par une sorte de besoin, de pulsion de vie. Mais la pulsion de vie, Freud va la décomposer. Et d'emblée, il observe qu'il y a une trace de la pulsion sexuelle. Parce que l'enfant, une fois qu'il est gavé, en quelque sorte, par le sein de la mère, il s'en va pas. Il continue à susauter le sein de cette mère avec un plaisir immense. Et donc Freud repère là quelque chose qui n'est plus simplement de l'ordre de la pulsion de vie, je dirais, à l'état brut.
Et c'est dans ce superflu qu'il distingue l'origine de la pulsion sexuelle,
c'est la première manifestation de la sexualité infantile.
La gratuité du sein de la mère.
Absolument, le plaisir de la succion. Donc, ce sentiment océanique dont parle Romain Rolland, Freud l'inscrit comme étant un retour, une réminiscence, la matrice en constituant ce sentiment de détresse que ressent le tout-petit à l'origine, lors de sa première séparation. Et à partir de là, il va donc développer qu'est-ce qui se passe, parce que ce sentiment de séparation est en quelque sorte au fondement de ce qu'il va appeler le malaise.
C'est aussi la raison pour laquelle Freud, finalement, interprète le désir comme expression du manque.
Bien sûr.
Alors, on a fait souvent, je dis cela parce que, bien souvent, des lectures de Freud, notamment dans les années 60, quand Freud était identifié, notamment par Michel Foucault, comme l'un de ces penseurs du soupçon, précisément, et de ces individus qui avaient l'intelligence de briser le sujet pour montrer ce qu'il agissait derrière l'illusion qu'il avait de son libre arbitre, Freud était également pris dans une lecture, j'allais dire, positive, ou dans une logique de la plénitude. Il était identifié notamment à Spinoza, par exemple, à qui on reconnaissait le mérite d'avoir le premier déconstruit le libre-arbitre. Et il était inscrit dans cette tradition des penseurs de la plénitude. Or, Freud, étant son fond un métaphysicien, c'est quelqu'un pour qui le désir est l'expression du manque avant d'être l'expression de l'excès ou de la surabondance.
Ah ben bien entendu, oui, mais le manque, c'est l'initial, ce qui est le départ du manque, la matrice du manque, c'est ce premier sentiment, cette première frustration que va ressentir l'enfant. D'où ce que vous appelez, parce que Freud n'en parle pas encore en ces termes-là, mais en fait de ce que vous appelez le désir, bon, qui est un désir de quoi ? Un désir de comblement, un désir de combler, de disparition et d'effacement du manque. Donc là, on est du côté du pulsionnel. On pourrait dire, si on veut métaphoriser, si on veut élargir, on pourrait dire tout avoir, ne manquer de rien.
Bon, ce qui est en soi un paradoxe d'ailleurs.
Oui.
Si on manque de rien, on manque du manque.
Ah, mais bien entendu. Bien entendu. Mais ça, il faudra pas mal de temps quand même pour l'admettre. Bon, ce que pose Freud, dès le départ, c'est que cette recherche du tout, de combler le manque, bon, va se heurter à des nécessités, à la rencontre de la réalité. La réalité, c'est que la mère va se lever parce qu'elle va faire la vaisselle, tout simplement. Bon, et qu'elle va poser bébé dans son berceau. Bon, plus tard, avec Dolto et un certain nombre de gens, on dira qu'il faut expliquer à bébé que maman va revenir, etc., etc. Enfin, à l'époque, maman va faire la vaisselle et elle s'occupe pas de dire à son petit, qui est donc confronté d'emblée à cette réalité qui est une réalité frustrante.
Et c'est là que bébé devient platonicien, en somme, et qu'il a la nostalgie d'un monde idéal.
Je reconnais bien là le philosophe qui va toujours sur le terrain de la philosophie.
Est-ce que je peux,
moi, vous savez, je reste sur le terrain de l'analyse, et de ma pratique. Bon, donc, l'enfant éprouve, pour la première fois, à ce moment-là, ce sentiment de ne pas avoir tout, d'être frustré, d'être privé. Et la suite va montrer que c'est permanent, cette confrontation avec la réalité. C'est-à-dire que Freud va dire, bon, ce que vous appelez...
Confrontation avec la réalité, vous voulez dire confrontation avec l'absence?
Pas seulement, c'est pour ça qu'il va préciser, là, vous voyez, avec Freud, il faut faire très attention, parce que Freud a toujours peur de glisser sur le terrain philosophique, et il s'en méfie du terrain philosophique comme de la peste.
Mm-hmm. Oui, c'est la différence entre Freud et Lacan, d'ailleurs, qui avait davantage lu les philosophes que Freud, peut-être.
Lacan a été chercher les philosophes, mais comme toujours, Lacan se sert, dans le bon sens du mot, mais d'une certaine manière, il les fait parler, avec toute l'ambiguïté de l'expression, il fait parler Freud. Il fait parler Hegel, il fait parler Heidegger, il fait parler Lévi-Strauss, il fait parler... Bon, il va se servir, il va bricoler chaque fois, mais il va tordre, renverser, tirer quelque chose de nouveau, d'où les polémiques incessantes à propos de Lacan, que ça vienne des anthropologues, que ça vienne des linguistes, que ça vienne des philosophes. Ah, mais écoutez, Lacan dit n'importe quoi, je n'ai jamais écrit ça. Mais il le sait qu'ils n'ont jamais écrit ça. Il attrape un truc, il le tord. Bon. Laissons Lacan de côté.
À la cantonade, comme il disait lui-même.
Voilà, à la cantonade, comme il disait lui-même. Bon, et à bon entendeur, salut.
Some fools don't know what's right from wrong, but somehow those folks belong. Me, I try for all I'm worth, but I still remain a stranger on this earth. Some people gloom, other folk cry. Me, I have to struggle to keep alive. Ever since the day of my birth, been a stranger on this earth.
Il y a, d'une part, à l'égard de la philosophie officielle, la philosophie enseignée dans les chaires de philosophie, un rapport qu'on peut dire en gros négatif, un rapport d'hostilité. Et puis, d'autre part, il y a tout un travail souterrain de la pensée de Freud qui le met en rapport tour à tour avec des philosophies plus anciennes, des philosophies du XVIIIe siècle, et j'espère le montrer, alors jusqu'à une sorte de plongée dans l'inconscient même de notre culture, si l'on peut dire, qui est alors la philosophie grecque tout près du mythe encore. Alors, si l'on considère le rapport le plus clair, le plus conscient de Freud, c'est certainement un rapport d'hostilité. Et on comprend bien pourquoi. La philosophie officielle, c'est essentiellement le néo-kantisme. Donc philosophie qui, aux yeux de Freud, est liée à un préjugé, ce qu'il appelle lui-même le préjugé de la conscience, c'est-à-dire que toute pensée s'organise autour d'un foyer, le sujet conscient de lui-même, enfin, le sujet qui prend conscience de lui-même. Or, pour Freud, c'est l'obstacle majeur à la psychanalyse. La psychanalyse naît de cette affirmation, psychisme égale inconscient. Et il trouve en face de lui un enseignement philosophique qu'il voit résumé dans une autre équation, n'est-ce pas ? Psychisme égale conscient. Par conséquent, il faut briser un préjugé, et pour lui, briser ce préjugé, c'est essentiellement briser la philosophie, pour aboutir à une sorte de nouvelle équation.
Vous êtes d'accord, Michel Plon, avec
oui,
ce diagnostic de Paul Ricoeur?
Oui, pour l'essentiel, oui, bien sûr. Freud fait rupture, c'est-à-dire que l'idée d'inconscient existe bien avant Freud, dans tout le romantisme allemand, et même avant.
Pardon de faire le philosophe, mais c'est Leibniz qui l'a formulé le premier,
certainement,
au XVIIe siècle.
Oui, oui. Mais la découverte de Freud n'est pas l'inconscient en tant que tel, c'est son inconscient, tel qu'il le théorise, tel qu'il en donne les lois de fonctionnement. Et ça commence très justement par ce que dit Paul Ricoeur. Le centre, c'est cette belle phrase de Freud qui dit « Le moi n'est pas maître en sa demeure ». Et il précise à ce sujet en disant « Au fond, je suis en train d'infliger sa troisième blessure à l'humanité, troisième blessure narcissique, après Copernic, la Terre n'est pas le centre du monde, après Darwin, l'homme descend du singe, bon. Et moi, je dis, le moi n'est pas maître dans sa demeure. »
Faut-il être narcissique quand même pour considérer qu'on inflige une blessure narcissique à l'humanité tout entière?
Ah mais Freud était assez narcissique. Freud a une conscience très claire.
De son propre génie.
De son propre génie, de sa découverte. Ce qui ne l'empêchait pas d'être toujours sceptique, de se mettre toujours en travail, de remanier sans arrêt ses avancées. Hein, on pourrait fixer toutes les dates, toutes les périodes où Freud remanie jusqu'à la fin, en quelque sorte. Mais en même temps, non seulement il est conscient du caractère tout à fait fondamental, tout à fait novateur et transformateur pour l'humanité de sa découverte, mais il va se battre, griffes et ongles, pour défendre sa découverte. Ce sera les batailles institutionnelles, les batailles théoriques, avec tous ceux qui vont dévier de sa pensée. Alors évidemment, ça sera facile ensuite de l'accuser de dogmatisme et de je ne sais quoi, etc. Bien sûr qu'il est dogmatique. Il est dogmatique parce qu'il considère que... voilà, il y a une très belle phrase dans une correspondance avec Binswanger. C'est en 13, 14 ou 12. Il écrit à Binswanger, à un moment, il lui dit, parce que Binswanger dit, mais c'est compliqué d'avancer, de convaincre les gens, etc. Il l'arrête et il lui dit, dans sa lettre, il lui dit, vous savez, rien dans l'homme ne le prédestine à la psychanalyse.
Ah, c'est donc formidable.
Ça, c'est le scepticisme de Freud. C'est-à-dire qu'il sait.
Pourquoi? Parce que rien dans l'homme ne le prédestine à cette forme de vérité ou de sincérité-là.
Bien entendu. C'est-à-dire reconnaître qu'il n'est pas le maître, hein, qu'il est sur ses terminés, hein, en lui-même. Donc, pour Freud, c'est fondamental. Si on n'a pas compris ça, on est à côté. Bon, donc, on est hors psychanalyse.
Enfin, excusez-moi quand même, mais un homme qui dit « le moi n'est pas maître en sa demeure », qui dit que rien dans l'homme ne le prédestine à la discipline que moi-même j'enseigne, que je fonde et que je pratique,
oui, bien sûr.
Tout en étant sceptique et dogmatique, partant de lui-même pour construire une théorie, si cet homme-là n'est pas philosophe, aucun philosophe ne l'est.
Oui, bien sûr qu'il est philosophe, si vous voulez, mais Ricoeur vous le dit très bien, il n'est pas philosophe au sens où la philosophie est enseignée dans l'université, dans les académies. Ça, il n'est absolument pas philosophe.
Mais est-ce qu'il croit à l'influence des idées sur les comportements humains, par exemple? Ou est-ce qu'il considère que ce qu'il fait, finalement, demeure pertinent pour toujours, dans la mesure où aucun homme ou aucune civilisation n'intégrera ce qu'il raconte au point de se corriger elle-même?
Non, ça, là-dessus, il est plus que sceptique. Il est plus que sceptique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais...
Osez le mot, Michel Plomb, il est pessimiste.
Vous voudriez que... Non, parce qu'il se bat continuellement pour faire triompher la psychanalyse. Vous savez, la psychanalyse n'est pas une science. Hein? C'est pas quelque chose comme ça de figé une fois pour toutes. Bon, il y a sans arrêt des retours en arrière, des avancées. Bon, et elle est continuellement exposée aux assauts, à la lutte contre elle, aussi bien par l'extérieur, c'est-à-dire rien dans l'homme ne le prédestine, mais ça concerne les psychanalystes aussi bien. La position d'analyste n'est jamais complètement assurée, sinon on n'est plus psychanalyste. Le propre d'un analyste dans sa pratique, c'est une sorte d'inconfort, une sorte d'inquiétude. Si vous êtes tranquille dans votre pratique, bon, à ce moment-là, vous n'êtes déjà plus, sans même vous en rendre compte, vous n'êtes plus analyste. Un analyste, il est sur le qui-vive. Il est prêt à recevoir des coups moraux, des coups psychiques. Pontalis le dit très joliment dans un essai qui avait été publié dans un bouquin qui s'appelle « Entre le rêve et la douleur », où il dit que chaque séance de chaque patient, même un patient qui vient depuis 10 ans, il est dans son fauteuil... Et il s'attend, il peut recevoir un coup terrible, quelque chose d'absolument imprévu. Si vous n'êtes pas dans cette problématique de l'imprévu, ce qui veut dire que l'inconscient, bon, est quelque chose d'impalpable, quelque chose d'illocalisable, continuellement mouvant, si vous n'êtes pas dans cette problématique de l'inconfort, à ce moment-là, vous êtes dans l'ordre de l'habitude, hein, de l'habitus, pour parler en philosophe. Et Lacan a une très belle phrase dans l'éthique, hein, il dit « ce que le pire de nos ennemis, hein, la pire chose pour la psychanalyse, c'est l'habitude. On est loin du malaise, mais enfin, en même temps, on en est très près.
Selon nous, aucun trait ne caractérise mieux la culture que l'estime et les soins accordés aux activités psychiques supérieures, aux performances intellectuelles, scientifiques et artistiques, au rôle directeur concédé aux idées dans la vie des hommes. Parmi ces idées se trouve tout en haut les systèmes religieux, dont j'ai tenté ailleurs d'éclairer l'édification compliquée. À côté d'eux, les spéculations philosophiques. Et enfin, ce qu'on peut appeler les formations d'idéal des hommes, leur représentation d'une perfection possible de la personne individuelle, du peuple, de l'humanité tout entière, et les exigences qu'ils élèvent sur la base de ces représentations. Que ces créations ne soient pas indépendantes les unes des autres, qu'elles soient bien plutôt intimement entremêlées les unes aux autres, rend plus difficile aussi bien leur présentation que leur dérivation psychologique. Si nous faisons l'hypothèse, de manière tout à fait générale, que le ressort de toutes les activités humaines est la tendance vers ces deux buts confluents, utilité et gain de plaisir, Nous devons faire valoir la même chose aussi pour les manifestations culturelles ici mentionnées, bien que cela ne soit aisément visible que pour l'activité scientifique et artistique. Mais on ne peut pas douter que les autres activités, elles aussi, correspondent à de forts besoins des hommes, peut-être à ceux qui ne se sont développés que chez une minorité. On ne doit pas non plus se laisser égarer par des jugements de valeur sur tel de ces systèmes religieux et philosophiques et tel de ces idéaux. Que l'on cherche en eux la plus haute performance de l'esprit humain ou qu'on les déplore comme des égarements, on doit reconnaître que leur présence, en particulier leur prédominance, signifie un haut niveau de culture.
C'est étonnant, Michel Plomb, d'entendre Freud parler d'un haut niveau de culture, ou plus exactement de la présence, par exemple, d'un phénomène religieux ou d'un système métaphysique auquel il n'adhère pas, comme l'indice d'un haut niveau de culture, c'est-à-dire comme finalement l'indice de l'espace au sein duquel il a pu lui-même construire justement sa propre pensée.
Absolument. Seulement, il reconnaît dans le même temps, c'est pas dit dans le passage que vous avez cité là, c'est-à-dire que ce haut niveau de culture, et qui ne cesse de se développer, ne va pas sans un retour de flamme, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça implique, à chaque fois, à chaque étape, ce haut niveau de culture, ça implique en même temps quelque chose qu'ensuite on pourra nommer du côté de la castration, c'est-à-dire une privation de quelque chose. C'est le conflit permanent entre le développement de la culture dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire aussi bien les sciences, la technologie que les idéologies. Bon, tout ça a une fonction, en quelque sorte, de protection. Par rapport à la détresse initiale, par rapport à ce manque. Alors, évidemment, il y a différents niveaux dans la culture. Il y a le niveau, on pourrait dire, de l'illusion, à venir d'une illusion, ces fictions qui réconfortent l'homme, qui lui donnent un sentiment de sécurité, tout n'est pas perdu, on va pouvoir se réfugier, puis il y aura un au-delà, etc. Il y a aussi, comme élément de la culture, tout ce qui est de l'ordre de la science, des techniques, tellement poussées, comme il le dit à la fin du malaise, vous avez cité la phrase tout à l'heure, que l'homme acquiert la possibilité de se détruire. Bon, tout ça, ça participe de vivre ensemble, en quelque sorte, d'une nécessité absolue. L'homme ne peut pas vivre seul.
Mais qu'est-ce que Freud penserait de tous ceux qui, alors pardon de parler de philosophes à nouveau, mais de ces philosophes qui déconstruisent la religion comme théorie de la connaissance, donc qui s'en prennent à l'idée de Dieu, en somme, que ce soit Spinoza ou Schopenhauer, prononcés de là, ils s'en prennent l'un et l'autre à l'idée d'un Dieu transcendant. Ce sont deux adversaires vraiment irréductibles de l'idée même de transcendance, en disant que c'est, en termes gnoséologiques, en termes de connaissance, de la foutaise. Pour le dire, ils le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils pensent. Mais ce sont les mêmes, chacun dans son ordre, Spinoza dans un ordre politique et Schopenhauer de façon existentielle,
oui,
qui considèrent que du coup, par conséquent, les religions sont un bienfait inestimable car elles servent de consolation à l'homme au milieu des douleurs de la vie.
Oui, je crois que Freud serait d'accord. D'abord, il était un grand lecteur de, aussi bien de Schopenhauer que de Spinoza, qu'il appréciait beaucoup. Je pense qu'il serait d'accord avec le terme « consolation », le terme sécurisation, le terme réconfort, sont des termes qu'il utilise. Au niveau dans la culture, ça, je ne sais pas s'il serait totalement d'accord. Ce qu'il y a de certain, si vous voulez, c'est que lui, il est tout à fait conscient que, au regard de ses apports, de ceux qui répondent à un besoin de sécurité, à un besoin de protection, bon, il y a le pulsionnel. Bon. Et le pulsionnel qui n'est pas éradicable. Lui sait que d'une manière ou d'une autre, le pulsionnel fait retour.
Alors, et il trouve toujours un chemin.
Toujours, toujours, il trouve un chemin.
Donc religion est une traduction éventuelle de la pulsion.
Oui, ça peut être une traduction de la pulsion de survie, de la pulsion de protection. Mais en même temps, la religion comporte des interdits, comme tout élément culturel. Et notamment, on en sait quelque chose depuis des siècles en ce qui concerne le sexuel, en ce qui concerne la pulsion sexuelle. Bon. Alors, il y a ce combat permanent, et c'est ça le cœur du malaise, ce combat permanent entre le pulsionnel chez l'homme, qui dérive éventuellement vers des pulsions agressives, pulsions de destruction, pulsions de pouvoir.
Et le surmoi religieux.
Et le surmoi religieux. Le surmoi religieux qui est là pour faire
des limites. Dommage qu'on ne puisse pas vous filmer, Michel Plomb, parce que vous parlez avec les mains et l'image était tout à fait éloquente ici.
Non, mais le surmoi, Freud a une très belle phrase, il dit, le surmoi, c'est une chose qu'il faudrait un jour développer, j'ai toujours le projet de travailler là-dessus, l'incroyable nombre de métaphores politiques, militaire, voire guerrière, dans les textes de Freud, y compris dans les textes théoriques.
Pour décrire le surmoi.
Hein? Pas seulement, toujours, quel que soit de quoi il parle, c'est en termes de conquête, hein? En termes de gouvernement. Bon, et il dit à un moment que le surmoi, hein, c'est dans, je crois que c'est dans le malaise, il dit le surmoi est un gouverneur nommé dans des terres conquises. Oui. Mais les terres conquises peuvent toujours se révolter. Bon, alors ça c'est d'actualité.
Donc il est administrateur de terres conquises.
Hein. Oui, absolument. Le surmoi est administrateur de terres conquises. Hein. Et il est là, le surmoi, il implique ce sentiment de culpabilité. Hein. C'est-à-dire que, d'accord, il y a mon surmoi hein, qui est là pour me rappeler à l'ordre. Bon. Et puis en même temps, il y a mes pulsions hein, sexuelles et autres. Hein. De manger plus qu'il ne convient, d'avoir plus de femmes, etc., etc. Ça, c'est du pulsionnel. Non. La civilisation, hein, la culture, est là pour brider tout ça, pour mettre de l'ordre. Alors, ça peut prendre des extrêmes. Hein. On les vit à l'heure actuelle. C'est très d'actualité. C'est, je crois que c'est un point sur lequel il faut insister. Le malaise dans la culture, c'est tout à fait d'actualité.
C'est-à-dire hein.
Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, à quoi nous assistons ? À un déferlement de mesures, de lois, de tout ce que vous voulez, destiné à sécuriser les citoyens. Hein? Alors, ne vous inquiétez pas, je pense pour vous. Hein? Mais, comme je pense pour vous, je vais vous empêcher de fumer ici, n'importe où, etc. Je vais vous faire rouler à 90 à l'heure, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie sécuritaire qui se développe et qui va jusque dans l'intime du citoyen.
C'est ce que j'allais vous dire, Michel Plomb. Est-ce que cette idéologie sécuritaire n'est pas totalitaire dans la mesure où elle prétend protéger l'individu contre lui-même, reconduisant d'ailleurs la trilogie freudienne du ça, du moi et du surmoi, où il s'agirait en somme de préserver le moi des méfaits du ça et de rendre au surmoi la place d'administrateur.
C'est bien pour ça que aujourd'hui comme avant, et sous des formes à chaque fois un peu nouvelles, mais il faut être un peu aveugle ou sourd pour ne pas les reconnaître, c'est toujours le même combat contre la psychanalyse, d'une certaine manière, qui dérange. Hein, dans sa reconnaissance du « ça hein, », si on prend la deuxième topique comme repère, dans sa reconnaissance du « ça » et du « moi », qui fait même partie, car dans la deuxième topique, il y a une partie du « moi » qui est inconsciente. Bon. Reconnaître ça, donc reconnaître que le « moi » n'est pas maître en sa demeure, c'est inquiétant, c'est
pas sécurisant. Ce que vous voulez dire, c'est que le « surmoi » est des trois instances freudiennes,
oui.
Le « ça », le « moi » et le « surmoi » est la plus impersonnelle, finalement, la plus transcendante, la plus législative.
Oui, mais enfin, Freud, dans d'autres ouvrages, montre très bien comment ça s'organise dans une sorte de généalogie. Hein, c'est-à-dire, mon « surmoi », il montre très bien que c'est, dans une grande partie, non pas mon père, hein, mais le surmoi de mon père. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui, en quelque sorte, saute le moi du père. Hein. Et d'ailleurs, on peut le repérer dans des familles, hein, où, par exemple, le sentiment religieux se transmet à l'insu presque des parents. Hein. C'est pas seulement l'éducation religieuse. Alors, ce qui est important dans ce sentiment, dans cette idéologie sécuritaire, elle se sert d'une des trois raisons pour lesquelles que Freud identifie comme étant les raisons du malaise. Hein. Il dit, il y a une première raison qui est liée aux éléments naturels. Hein. Nous sommes dans une insécurité permanente. Hein. Il peut y avoir des tremblements de terre, je prends le train peut dérailler, l'avion peut tomber, on n'est jamais... Bon. Alors, vous voyez bien que nous sommes en ce moment dans une idéologie du risque zéro, hein, de la sécurité total.
Combat perdu d'avance.
Combat absolument perdu d'avance. Mais idéologiquement, combat qui est mené hein, dans le but quoi, de faire régner un certain ordre. Bon, alors, laissons les intérêts de cet ordre, etc. On assiste au désordre pour l'instant. Bon, ça, c'est le premier élément. Et la crise financière actuelle, bon, vraie ou fausse, fabriquée, pas fabriquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, toujours est-il qu'elle elle génère un sentiment d'insécurité. Les gens se demandent s'ils vont aller retirer leur argent, ils ne se sentent pas à l'abri. Etc. Donc on va renforcer des mesures sécuritaires. On va leur dire que de toute façon on ne touchera pas leur argent, qu'ils seront remboursés, bon, etc., etc. Ça c'est le premier facteur du malaise. Bon. Le deuxième facteur du malaise, c'est ce qui vient en quelque sorte de notre intérieur à nous, c'est-à-dire les maladies, notre corps et notre psychisme.
Ce que vous dites en somme, c'est que celui qui dit « n'ayez pas peur », que ce
oui.
soit le Christ,
ou
le pape
oui.
ou Big Brother,
oui.
celui qui dit « n'ayez pas peur », c'est une parole totalitaire.
Ah oui, d'une certaine manière, oui, puisque c'est une parole qui ne reconnaît pas qu'il n'y a pas de risque zéro, en quelque sorte, qu'on a quelques raisons d'avoir peur, et qu'au fond, la peur... Vous savez, les mères qui disent « bon, n'aie pas peur », bon, ou le père d'ailleurs, hein. On va dire j'en ai après les mères. Bon.
Non mais alors justement,
pardon,
parce que le temps passe, Michel Plon, et c'est vrai qu'il y a une dimension quand même du sentiment religieux qu'on n'a pas trop examiné, on n'a pas eu le temps. On est parti du sentiment océanique, on a parlé de la mère, on aurait pu parler du père, puisque le sentiment religieux prend aussi naissance dans la nostalgie d'un père protecteur, dans la dépendance infantile. Je regrette beaucoup de n'avoir pas là sous les yeux le texte des mots dans lequel Sartre dit « N'ayant pas eu de père, je n'ai pas de surmoi ». Et il regarde ses semblables avec leur père sur les épaules ou leur semi-remorque de névrose derrière.
Ça, c'est très beau.
Je n'ai pas eu de surmoi, etc. Autre philosophe dont le père meurt quand il a 3 ans alors qu'il lui tient la main devant une église alors qu'il est pasteur, c'est Nietzsche. Son père meurt sous ses yeux. Ce sont deux contempteurs du divin. Sartre était hors Dieu, Nietzsche était hors Dieu également. Ce sont deux individus qui pensent hors Dieu. Faut-il voir un lien en termes freudiens justement dans le fait que ces deux penseurs, Sartre comme Nietzsche, abjurent l'idée de Dieu si on faisait leur psychanalyse, le fait qu'ils n'aient pas eu de père?
Non, ils n'ont pas de père, mais il y a un autre. Que ça soit chez Sartre ou chez Nietzsche. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de réduire, en quelque sorte, hein, le concept de père, c'est-à-dire cette instance, hein, que Lacan appellera grand autre, par exemple, bon, à l'idée du père réel. Bon, le père réel, il peut être là, il peut être pas là. Il peut être mort, il peut ne pas être mort. Vous savez, il y a des pères qui sont pas morts, mais qui sont pas là. Hein, et il y en a d'autres qui sont pilotes de Boeing, qui sont là 2 jours ou 1 jour tous les 15 jours à la maison, mais ils sont terriblement là. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre les étages. Lorsque Freud parle du père, et lorsque Lacan va parler du nom du père, bon, il s'agit de quelque chose qui est une abstraction, mais qui correspond à une sorte de nécessité interne, bon, que Freud appelle le surmoi. Bon, mais c'est une instance, en quelque sorte. Elle est matérialisée, elle est représentée. Il y a un tenant-lieu, comme aurait dit Lacan, bon, qui peut être le père biologique, le père dans la réalité. Bon, mais ce n'est pas parce que le père meurt que la mort d'un père affecte un enfant, ça c'est tout à fait évident. Mais pas nécessairement
pas
dans le sens...
Je pense que ce n'est pas tellement la mort du père, c'est son absence,
oui,
tout simplement.
Oui, mais ça ne se traduit pas automatiquement par un rejet de Dieu. Il n'y a pas d'automatisme de cet ordre-là.
Mais alors, quelle est la place? On va terminer là-dessus, mais enfin, quand même, quel est le...
Il y aurait tant d'autres choses à dire sur le malaise.
Mais justement, laissons l'auditeur sur le sentiment fécond d'une frustration et d'incomplétude qui l'invitera à aller lire et relire le malaise dans la culture. Juste, sur la figure du père, encore une question quand même. Quelle est dans cette édification du sentiment religieux, quel est donc le rôle de l'absence ou de la présence du père?
Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Il n'y a pas d'automatisme là-dessus. Il peut y avoir... L'absence du père peut conduire un individu donné, mais probablement en fonction aussi d'énormément d'autres paramètres. Hein. Elle peut conduire à la recherche d'un dieu, quel qu'il soit. Hein. Mais elle peut conduire à la recherche d'une idéologie rassurante, d'une adhésion à une idéologie rassurante. Hein, et protectrice. Ça peut être une idéologie dans le militantisme politique, ça peut être une autre forme d'organisation sociale. Donc c'est pas automatiquement vers Dieu que ça se tourne.
Restons sceptiques, Michel Plon, pour terminer cette émission sur cette question, et merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci infiniment Michel Plon, c'était passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, directeur de recherche au CNRS, et que vous êtes également l'auteur, enfin co-auteur du livre collectif Autour du malaise dans la culture de Freud, paru en 98 aux Presses universitaires de France. On vous doit aussi et surtout, je le redis, le dictionnaire de la psychanalyse dont la 3e édition remonte à 2006, la 4e à 2010, enfin ça va venir, paru chez Fayard, écrit à 4 mains avec Elisabeth Roudinesco.